C'est l'anniversaire des funérailles de Rembrandt, ce grand peintre. Vous serez peut-être un peu surpris que je vous parle de Rembrandt, d'autant plus qu'il n'était pas catholique. C'est un mennonite, vraisemblablement, de toute façon un protestant. Mais c'est un mystique. C'est un homme nourri par l'écriture sainte que sa mère lui a enseignée, lui a lu quand il était enfant. Il a été nourri par l'Ancien et le Nouveau Testament, ou le Premier et le Nouveau Testament. Et alors, on peut voir dans sa vie combien il a été habité par notre Seigneur. Mais en même temps, c'était un homme qui était pris dans d'autres problèmes, comme beaucoup d'entre nous. Et nous pouvons nous reconnaître en lui jusqu'à un certain point. C'est à la fois un grand croyant, mais un pécheur. Et c'est pour ça que je m'intéresse à lui, parce que c'est quelqu'un qui permet peut-être à beaucoup d'entre nous d'apprécier davantage ces grands génies qui ont eu des problèmes, comme nous tous. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Rembrandt est né à Leyde, c'est-à-dire en Hollande, en 1606, il y a donc près de 400 ans. Il est né un 15 juin, puis il était le cinquième des sept enfants d'un meunier. On sait qu'en Hollande, il y a des moulins. Il était meunier, son père. En 1620, donc à l'âge de 14 ans, ce jeune Rembrandt, qui a un curieux prénom, c'est son prénom, ça, Rembrandt, car son vrai nom, c'est Rembrandt Armetson van Ringe. La dernière partie de son nom veut dire « du Rhin », car c'est près du grand fleuve, le Rhin, n'est-ce pas? Et alors, qu'était le moulin de son père? Alors, ce jeune Rembrandt, à 14 ans, abandonne ses études déjà, à peine commencé. Il se consacre à la peinture. Ça pourrait consoler certains parents qui ont des enfants qui ont abandonné leurs études. Après 3 ans d'apprentissage dans le domaine de la peinture, il quitte sa ville natale de Leyde et se rend à Amsterdam, où il devient l'élève de Peter Lastman. À 19 ans, en 1625, il revient dans sa ville natale et Rembrandt y ouvre un atelier. C'est la période dite de Leyde qui dure jusqu'en 1630, donc, environ 5 ans. En 1626, d'ailleurs, Rembrandt peint déjà, il est jeune, il a 20 ans, il peint Toby et Anne avec la chevrette et l'âne de Balaam. Ça impressionne beaucoup de gens. Il n'a que 20 ans. L'année suivante, en 1627, il peint Saint-Paul en prison, à 21 ans. À 25 ans, en 1631, Rembrandt s'établit à Amsterdam, puis ne quittera plus. Il y mourra. En 1669, un 4 octobre, et il est enseveli le 8 octobre, c'est l'anniversaire des funérailles aujourd'hui. En 1631, donc, je vous ai dit qu'il s'établit à Amsterdam. Il exécute là le portrait de Nicolas Rutz et un fameux tableau, La Sainte Famille. Comme vous voyez, il a peint beaucoup de choses religieuses et c'est ce qu'il aimait le plus faire. À 26 ans, il exécute la fameuse Leçon d'anatomie. C'est une de ses œuvres majeures. Je pense bien que vous avez tous vu des reproductions de la fameuse Leçon d'anatomie de Rembrandt. En 1634, donc à 28 ans, il épouse Saskia van Willenburg, dont il a reproduit les traits dans le fameux portrait de Saskia, qui est au musée de Dresde, mais elle lui a servi aussi de modèle pour quantité de toiles. En 1636, il y a 2 tableaux de Rembrandt qui sont assez différents l'un de l'autre. l'aveuglement de Samson, puis Danaï. L'aveuglement de Samson, c'est-à-dire au moment où on a percé ses yeux, c'est un tableau terrible qui relève évidemment de l'Ancien Testament. La première période d'Amsterdam est donc terminée en 1636 et la seconde commence, qui va se prolonger jusqu'en 1642. Sa vie est divisée ainsi en périodes parce qu'il y a des éléments très différents. Et durant cette période qui va jusqu'en 1642, il va réaliser une série de tableaux. Ils vont représenter des scènes de la Passion, la Crucifixion, la déposition de la croix, qui lui avait été commandée par le fameux statuaire, ou si vous voulez, le grand, le président, le chef du pays, Frédéric-Henri d'Orange. En 1640, les Hollandais protestants obtiennent le monopole du commerce européen avec le Japon. C'est de là que vient que les missionnaires catholiques au Japon ont été chassés. C'est dommage pour la Hollande, c'est dommage pour les Hollandais qu'ils aient pu faire ça à l'Église catholique du Japon. Et ce n'est que 200 ans plus tard, comme vous savez, un peu plus, que les prêtres catholiques retrouveront les Japonais qui auront préservé en grande partie leur foi grâce à la récitation du rosaire, comme je vous l'ai dit hier. En 1640, donc, il y a ce monopole du commerce européen avec le Japon, mais aussi la mort de la mère de Rembrandt, qui l'affecte énormément. De 1640 à 1650, il y a ses meilleures eaux fortes. C'était un homme qui a fait des eaux fortes extraordinaires. Vous savez, ces dessins, c'est noir, gris, blanc, mais c'est magnifique, hein? Les trois arbres, le Christ guérissant les malades, qui est une des œuvres les plus importantes de l'histoire de l'art, le Christ guérissant les malades. Quel sujet important, nous qui sommes tous malades, nous nous reconnaissons. Et des copies de cette estampe, le Christ guérissant les malades, ont été vendues très rapidement. En 1641, il y a la naissance de son fils Titus. C'est le seul des quatre enfants de Rembrandt et de Saskia qui n'est pas mort en bas âge. En 1642, il peint la fameuse ronde de nuit. Oh, c'est un tableau très, très important. Et cette même année, meurt sa femme Saskia le 14 juin. En 1646, Rembrandt peint l'Adoration des bergers. Et ce tableau ouvre la série des scènes de la Passion de Jésus commencée en 1636 avec la crucifixion. En 1647, il y a Suzanne et les vieillards, qui est un tableau très connu. En 1648, le Christ à Emmaüs. Très, très connu, cette œuvre. C'est très beau, ça, ce Christ qui se révèle à ses disciples à la fraction du pain. Et puis, en 1648, la même année où il fait le Christ à Emmaüs, il y a un traité de Westphalie qui donne l'indépendance aux Pays-Bas. Le pays devient libre. Curieux pays qui parle une langue qui n'est parlée nulle part ailleurs. Le hollandais, le néerlandais. En 1656, il y a la naissance d'une fille, car il a une maîtresse. Et c'est là le drame de sa vie. Elle ne deviendra jamais son épouse légitime parce qu'il sombre dans la pauvreté la plus totale. Il est ruiné complètement. L'année suivante, d'ailleurs, alors que sa fille, on disait à l'époque illégitime, aujourd'hui on dit sa fille naturelle ou sa fille simplement, eh bien, sa maison est vendue, toute sa riche collection d'objets d'art et de curiosités, tout ce qu'il avait réuni, qui a causé d'ailleurs en bonne partie sa ruine et mise aux enchères. Et c'est le début de sa quatrième période. C'est là qu'il va peindre son fameux « Le retour de l'enfant prodigue » que l'on voit sur la couverture du dernier livre de spiritualité de l'auteur spirituel très connu, Newman. En 1668, Titus, son fils, meurt peu après son mariage. Et l'année suivante, en 1669, comme je vous ai dit, ben là, il fait son autoportrait, mais il meurt le 4 octobre. Il est enseveli le 8. Quand on va à l'aide, la ville où il a vécu, on peut voir une petite rue qui donne sur l'un des bras du Rhin. Et puis, en 1600, il y avait là un moulin. Et en face de cette ruelle, c'était le moulin Van Rynch, le moulin de son père. Son propriétaire, donc, s'appelait Armen Gerritsson. Et sa femme lui a donné, comme je vous ai dit, 7 enfants, 5 garçons, c'est-à-dire, et 2 filles. Et quand le 15 juin 1606 est né le 5e enfant, c'est là qu'ils lui ont donné ce curieux prénom de Rembrandt, qui est envoyé à l'école le 20 mai 1620, je vous ai dit, à 14 ans. Il quitte ses études, ils l'ont inscrit à l'université de Leyde, mais il n'a pas fait d'études là, vraiment. Il a préféré quitter. Il avait peu de livres quand il est mort. Il ne possédait que très très peu de livres, mais ce qu'on a trouvé dans sa petite bibliothèque, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament que sa mère avait l'habitude de lire et qui y sont restés toute sa vie une source d'inspiration. Et sa mère avait appris à son fils à aimer la Bible. Elle lui avait transmis une foi solide, un sentiment religieux que rien, jamais, n'a ébranlé. Rembrandt a été profondément influencé par sa mère. Et dans un tableau qui se trouve à Vienne, il va la peindre en train de lire sous les traits de la prophétesse Anne. Alors l'adolescent, Rembrandt, a grandi dans une ambiance familiale qui était tendre, chaleureuse, sous l'autorité bienveillante de son père. Et ceci explique que malgré son tempérament fantaisiste, Rembrandt est toujours demeuré un homme simple et casanier. Sa vocation, d'ailleurs, s'est manifestée très tôt, et son père a eu la sagesse de ne pas s'opposer à son choix. À l'époque de la Renaissance, de la naissance de Rembrandt plutôt, la ville de Leyde était florissante et en 1609, la ville comptait environ 80 000 habitants. C'est assez énorme pour l'époque. On y avait fondé en 1575 une université. C'est un centre de culture. Il y avait là 400 étudiants, dont des Français qui venaient étudier là, dont René Descartes et le fameux poète du 17e siècle Théophile de Viau. Et le séjour de Rembrandt dans cette université n'a duré que quelques jours, quelques mois. Et il a suivi les cours à contre-cœur, mais il griffonnait tout le temps. Et c'est là que se dessine chez lui cette carrière fantastique qui en fera de lui l'un des plus grands communicateurs de la Bible et particulièrement de la vie de Jésus. À 17 ans, Rembrandt part pour Amsterdam. Il séjourne 6 mois dans un atelier, l'atelier de Lastman à Amsterdam, et après ce stage, il entre chez un autre, Jacob Pijnas. Et ces peintres avaient séjourné en Italie. Et alors, Rembrandt trouve à travers ces professeurs-là des leçons de réalisme. De réalisme italien qu'on retrouve chez Caravage. Et les oppositions entre l'ombre et la lumière. Et ce réalisme du grand peintre italien Caravage, à travers ses professeurs, entre dans son cœur. C'est pas une simple reproduction du vrai que fait Caravage, c'est l'expression intense et fouillée de ce qu'il y a de plus profondément humain. Et là, la lumière qui baigne ses toiles, c'est pas une clarté quelconque qui lutte contre les ténèbres, elle donne un relief saisissant aux formes. Et cet art rencontre parfaitement les aspirations de Rembrandt, du jeune Rembrandt. Alors l'œil acéré, l'œil très particulier de ce jeune peintre, fils d'un meunier hollandais, sorti du peuple, sait discerner d'emblée ce qui peut nourrir son propre talent. Et la technique de Lastman, son premier professeur, ouvre à Rembrandt le monde de l'art italien, avec son côté grandiose et fastueux, son goût pour le théâtral et le déclamatoire, mais surtout sa dévotion exaspérée. Une dévotion à l'égard en particulier des scènes de l'Évangile. Rembrandt subit bien d'autres influences. Il est ébloui par le spectacle entièrement neuf pour lui de cette d'Amsterdam, qui est une ville rutilante à l'apogée de sa richesse. Il doit retourner à l'aide au début de 1624 à cause d'une épidémie de peste. Donc à l'aide, dans sa ville natale, les premières œuvres de Rembrandt reçoivent un accueil flatteur. Et d'emblée, les amateurs de peinture le considèrent comme un maître. Et cette réputation, il la doit à ses tableaux qui s'accordent au goût de sa clientèle, qui est protestante, calviniste, imprégnée dès l'enfance des récits des livres saints, de l'histoire sainte. Mais ses portraits aussi commencent à intéresser des connaisseurs éclairés. Le père de Rembrandt meurt en 1630 et l'année suivante, Rembrandt s'installe donc à Amsterdam, il y retourne. Elle est libérée de la domination espagnole depuis 1578 et la ville est en majorité calviniste. Mais ses habitants ne manifestent aucune intolérance religieuse. Il y a de nombreux exilés qui sont persécutés chez eux pour leur foi et s'y réfugient. Amsterdam est bâtie sur 90 îlots. Étrange ville, qui sont reliés par des centaines de ponts. Et la ville est à cette époque le port le plus important d'Europe. Elle compte 130 000 habitants, puis à la mort de Rembrandt, on en recensera même 200 000, ce qui est énorme pour l'époque. 16 000 bateaux font des Pays-Bas l'une des plus grandes puissances maritimes du temps. 1500 d'entre eux, de ces bateaux, sont équipés pour la pêche au hareng, le fameux hareng qu'on mange en Hollande et qu'ils exportent, on peut acheter ça à Montréal. Ces bateaux sont pour la plupart basés à Amsterdam, mais les bourgeois d'Amsterdam, cependant, qui font beaucoup d'argent, sont plus discrets sur une autre source de leur fortune, de leur profit. C'est quoi? C'est ce qu'ils appellent, d'une façon bien étrange, le commerce du bois d'ébène. Ils font le commerce des esclaves noirs qu'ils vont chercher en Afrique, ces calvinistes hollandais. Mais les Hollandais tiraient aussi des mines, de la métallurgie, des textiles, de la bière et du sucre, toutes sortes de richesses, et à ces revenus s'ajoutaient ceux du commerce outre-mer, pratiqué à grande échelle par la Compagnie des Indes hollandaises, en particulier avec le Japon. Et Amsterdam était l'un des points de concentration de cette immense richesse. Et sa banque était la plus puissante d'Europe. Alors tout en s'intéressant passionnément à l'art et à la culture, mais les classes fortunées gardaient pourtant, et c'est Descartes qui a étudié là, qui en témoigne, ces classes fortunées gardaient la simplicité, dit Descartes, des anciens usages. C'est une ville protestante, calviniste. Et dans cette ville qui le fascine, Rembrandt trouve sans peine des amateurs qui sont susceptibles de payer sa peinture assez grassement. Alors, il obtient pas mal d'argent. Ses élèves le paient aussi. Rembrandt gagne de 10 à 12 000 florins par an, soit plus de 150 000 de nos dollars pendant les années qui vont précéder sa ruine. Il y a de très belles toiles de lui, mais il s'y prend de la vie, du plaisir. Rembrandt, après la mort de sa femme toutefois, et des autres épreuves, va devenir un homme amer et distrait. Et l'agitation de la ville, le choc, ça l'énerve. Il se réfugie dans l'art et dans la lecture de la Bible. Il retourne à un monde clos. Il ne sort de ça qu'avec réticence. Porté par le succès, il est enclin à l'optimisme. Quand il est jeune, il ne pensait qu'à jouir de la vie. Maîtrise extraordinaire du dessin, de la composition et de la couleur. À ses débuts, à l'aide, il a, à travers son professeur Lastman, subi l'influence, je vous l'ai dit, de l'école italienne, il en a appris l'art, d'utiliser la lumière. Et dans le mouvement vigoureux de ses tableaux, s'annonce, petit à petit, la manière d'un autre peintre, de Rubens. La seconde période, à Amsterdam, de Rembrandt, entre 1636 et 1642, est caractérisé par des compositions plus calmes. Mais arrive un jour où ces tableaux d'inspiration religieuse atteignent une simplicité qui suscite une profonde émotion. La lumière, la couleur s'y font encore plus chaudes, plus délicates. Et dans les dernières années de sa vie, la quatrième période, là, or sa touche est dense et vigoureuse, elle exprime une vision du monde très, très personnelle, profondément humaine, et la palette de Rembrandt joue alors sur des tons riches et vibrants, des jaunes, des rouges, des bruns. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez au retour du fils prodigue peint en 1668, un an avant sa mort. C'est tellement beau. Rembrandt a connu, je vous l'ai dit, de son enfance, les influences de la Bible. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les lectures à haute voix étaient habituelles à cette époque. Alors imaginez le petit Rembrandt qui était bercé par les récits fantastiques et merveilleux de l'Écriture sainte. C'est sans doute alors qu'a germé dans son âme naïve d'enfant cette piété qui va imprégner plus tard ses œuvres d'inspiration religieuse. Il s'est attaqué très tôt au grand thème religieux et toute sa vie, il en a peint. Il a été très attaché à ça. Mais les calvinistes n'aimaient pas la décoration des lieux de culte. Ils ne voulaient pas de tableaux dans leur temple. Et la clientèle des églises, là, les prélats, les communautés catholiques, n'existaient pas ou guère en Hollande. Il n'y en avait plus. Alors, c'est des particuliers qui achetaient des tableaux traitant des termes sacrés, mais uniquement dans un but d'édification familiale. Ils mettaient ça chez eux. Et il a peint des portraits, des tableaux religieux parce que ça répondait à ses grandes aspirations spirituelles. On verra jusqu'à quel point il a été nourri des grands thèmes religieux. Les gens qui ont bien étudié la vie de Rembrandt s'accordent presque tous pour reconnaître que, comme sa mère, il appartenait à la secte ou à l'église des Mennonites. Qu'est-ce que les Mennonites? C'est une secte ou une petite église fondée vers 1536 qui est admirable dans sa foi. Les Mennonites sont très appréciés par la plupart des chrétiens. Ils avaient été fondés par Menno, c'est de là que vient leur nom Mennonite, Menno Simonis. Dans cette secte, dans cette église, on ne baptise que des adultes. Ils s'opposent au baptême des enfants. Dans les tableaux religieux de Rembrandt, on sent qu'ils sont imprégnés d'un sens profond du sacré, auquel se mêlent quand même des accents humains extraordinaires. Rembrandt y exprime librement et concrètement sa foi, très réelle, et il unit ainsi ses propres sentiments à sa technique absolument magistrale. C'est sa parfaite connaissance de la Bible qui guide Rembrandt dans le choix de ses thèmes d'inspiration religieuse, mais aussi le souci, le désir d'interpréter des sujets qui ont été négligés par ses devanciers. Les textes de la Bible ont été très, très exploités par les peintres avant lui, mais par tradition, ceux-ci ont toujours porté leur choix vers les mêmes sujets, alors Rembrandt veut échapper à ces poncifs-là. Et ses choix témoignent de la totale liberté de son esprit, de son goût pour le merveilleux puis le fantastique. La composition de ses tableaux mêle alors avec une invention absolument exubérante, des éléments baroques, des éléments orientaux et juifs. Mais le décor emprunte beaucoup aux intérieurs hollandais de son temps. Il procède de même en ce qui concerne les costumes de ses personnages. Il écarte résolument toute représentation allégorique ou symbolique. Il s'en tient au texte de la Bible, qu'il transpose sur sa toile avec une fidélité rigoureuse, mais en utilisant toutes les ressources de son imagination puis de sa technique. La réussite de Rembrandt est complète, grâce à ce don qu'il a de tout sublimer et qu'il utilise à son plus haut degré. Grâce aussi à sa façon originale de camper ses personnages, que ses personnages soient isolés ou en groupe, et grâce, enfin aussi, à l'espèce de magie avec laquelle il joue avec l'ombre puis la clarté. Il y a des projections de lumière brusques qui luttent contre des espaces obscurs dans ces tableaux, et ça semble se prolonger à l'infini ou s'ouvrir sur des profondeurs immenses. La splendeur aussi des bijoux, le chatoiement des étoffes, l'aspect étrange des vêtements ou des chapeaux, ça apporte une contribution à la création d'un monde étonnant, de formes et de couleurs. Et d'une façon très neuve et très personnelle, Rembrandt exprime à la fois la grandeur et l'éternité des thèmes sacrés, puis son propre idéal de la beauté. Il n'a rien d'un philosophe subtil, cependant. C'est un homme qui vient des milieux les plus simples. Ce n'est pas un savant. Et puis son inspiration dans sa foi et dans la lecture assidue de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais sa vision du monde biblique, on peut dire qu'elle est d'une originalité unique, exceptionnelle, à la fois précise et fantastique. Et Rembrandt est le créateur d'un spectacle qu'il nous offre, un spectacle spirituel, hein, où s'affirme la profondeur et la puissance de sa foi. Rembrandt, on l'appelle de son prénom Rembrandt, et un autre peintre hollandais qu'on appelle de son prénom, c'est Vincent van Gogh, hein, Vincent. On l'appelle souvent Vincent. Bon, son compatriote Van Gogh, qui a eu une âme si tourmentée, il affirmait, en parlant de Rembrandt, « Il n'est pas possible de regarder un Rembrandt sans croire en Dieu. » Formidable. Parmi les papiers personnels de Rembrandt qui sont parvenus jusqu'à nous, il y a 7 lettres adressées à Huygens. C'était un ami, qui était aussi un admirateur de longue date. Huygens occupait une charge très importante puisqu'il était secrétaire du Stadthouder, c'est-à-dire le chef de l'État, Frédéric Henri, chef de la maison d'Orange. Et le rôle capital joué par cette famille d'Orange dans la conquête et l'indépendance avait fait que la Hollande et Provinces Unies avait accordé les fonctions de chef d'État, donc, au prince d'Orange, et plus tard, ce titre de Stadthouder lui a été décerné, qui servait à le désigner. Et dans la troisième des lettres de Rembrandt à Huygens, on trouve trace de la seconde et de la plus importante commande de tableaux religieux qu'ait jamais reçu Rembrandt. Une série de toiles retraçant la passion et commandée par Frédéric Henri d'Orange. Rembrandt demande à son ami s'il désire qu'il les lui envoie chez lui, et pour le remercier de lui avoir procuré ce travail important, il lui promet un tableau de 10 pieds sur 8. Il est généreux. Et Rembrandt a accueilli la commande du prince d'Orange avec un grand plaisir, soit parce qu'elle provenait évidemment du personnage le plus en vue de l'État, soit aussi parce que les thèmes traités lui étaient chers. Il aimait ces thèmes-là. Et en fait, il a fallu une quinzaine d'années pour achever tout ce cycle. Rembrandt était submergé par les commandes. Les tableaux du prince ont été exécutés entre 1630 et 1640, et c'est durant cette même période que Rembrandt a peint les 2/3 de ses portraits. Une énorme quantité de portraits. Et malgré cette activité inouïe, sa pensée s'envolait souvent vers les sources d'inspiration qui étaient pour lui l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux livres éveillaient son imagination et son enthousiasme. Il a su en tirer, comme je l'ai dit, des images merveilleuses. Son goût pour un certain orientalisme était tempéré de fantaisie, son sens inné du sacré ont porté naturellement Rembrandt vers ces scènes-là. Il a peint des scènes de l'Ancien Testament avec respect. Mais dans ces toiles inspirées du Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus est toujours nimbé d'une mystérieuse aura de douceur et de bonté qui n'environne aucun des personnages de ces tableaux tirés de l'Ancien Testament, aussi noble et aussi humain soit-il. Et malgré leur vérité, bien, les épisodes qu'il a peints de la vie du Christ baignent toujours dans une atmosphère essentiellement différente de celle qui entoure ces scènes bibliques de l'Ancien Testament. Aucune de ces représentations de la passion n'exalte la violence, la cruauté, que dégage par exemple la toile qui a été peinte en 1636, qui est actuellement à Francfort, où il montre Samson les yeux crevés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rembrandt était sensible à la sombre rigueur, à la brutalité, à l'impitoyable dureté de certains récits mosaïques. Et il a su en rendre le ton avec une fidélité puis une vigueur étonnante, mais avec la même justesse de touche, il a su imprégner de tendresse et d'amour ses tableaux sur la vie du Christ. Dans ceux-ci, il rend présent et sensible aux spectateurs le message de paix et d'amour de Jésus, en contraste avec la loi hébraïque qui lui a semblé toute de dure rigueur. Les sujets qui inspirent Rembrandt sont traditionnels, mais il les renouvelle complètement, et au fur et à mesure qu'il avance en âge, les scènes qu'il peint se font plus recueillies, plus intimes. Il y a une spiritualité de plus en plus profonde qui tempère son réalisme. C'est admirable. Les deux premières œuvres que Rembrandt a peintes pour le prince Frédéric Henri d'Orange sont l'élévation de la croix et la déposition de la croix. Et à cette époque, il aimait frapper l'imagination par l'emploi d'un clair-obscur, là, un contraste entre la lumière et l'ombre, très très accusé, puis rehaussé de couleurs vraiment intenses. S'il a commencé par ces deux sujets que je viens de vous mentionner, et la série des tableaux qu'on lui avait commandés, c'est probablement que leur exécution leur en a été facilitée par toutes sortes d'esquisses qu'il avait tracées à l'époque, où il a peint le cadavre de la leçon d'anatomie. Parce qu'en peignant ce cadavre, ça l'a aidé à traiter la dépouille de Jésus, le corps mort de Jésus. Et malgré sa vigueur, le réalisme de Rembrandt reste toujours tempéré par un sentiment humain. Ça rend tout ça beaucoup plus poétique. Et l'artiste, mais il participe personnellement à l'événement qu'il retrace. Il se met dans ses tableaux. Il se place lui-même au cœur de l'action. Il y est souvent l'un des personnages. C'est ainsi qu'il s'est peint au pied de Jésus crucifié dans le tableau qui se trouve à la Pinacothèque de Munich et qui a été exécuté entre 1632 et 1633. Il a les sourcils froncés, le regard chargé d'angoisse. On le retrouve encore dans la déposition de la croix. C'est lui le personnage qui figure en haut à gauche. Il est vêtu de bleu. Il se tient sur l'échelle et qu'est-ce qu'il fait? Il aide à descendre le corps sans vie de Jésus. Une ombre cache en partie l'expression de douleur intense de son visage, mais on la distingue clairement, cette expression, dans une eau forte qui reproduit ce tableau, la déposition de Jésus. Le geste de tendresse qu'il esquisse là, vers le bras du Christ, c'est très émouvant. On sent que Rembrandt s'interroge sur lui-même. Il l'a fait dans beaucoup d'autoportraits. Et ceci nous permet d'ailleurs de déceler bien des traits de son caractère. Notamment, un élément très important, c'est le respect qu'il nourrit pour les grands enseignements de la foi. Il ne s'agit pas chez lui d'un sentiment superficiel, dicté par des événements douloureux qui ont jalonné sa propre vie, non, non. Même dans ses années de jeunesse, alors que l'amour, le succès lui souriaient, ses tableaux trahissent déjà une rare qualité de sentiment. Il ne cesse de s'y poser la question, « Qui suis-je? Qui donc sommes-nous? Quel est le sens du courage du Christ Jésus? » Ça nous fait comprendre qu'au creux des difficultés de sa vie, même sur le plan moral, il est toujours demeuré un chrétien profond. Et c'est étrange cette dualité que nous pouvons avoir au fond de nos péchés. En 1646, c'est l'année de la ronde de nuit, mais aussi celle de la mort de sa femme Saskia. Elle meurt le 14 juin 1646 et son fils Titus a été baptisé le 22 septembre précédent. Mais dès avant la naissance de cet enfant, Saskia ne se portait déjà pas très bien. Et malgré les soins de son mari, son état n'a pas cessé d'empirer. Le 3 juin, qu'est-ce qu'elle fait? Quelques jours avant sa mort, elle lègue tous ses biens propres à son fils Titus. Mais son mari, Rembrandt, en conserve l'usufruit, à condition de ne pas se remarier. C'est une clause qui était en usage courant à l'époque, mais ça c'est son drame. Il ne peut pas se remarier. Or, aux alentours de 1645, il y a une femme charmante, une jeune fille de 23 ans, qui fait son apparition dans la maison du peintre. Il en devient amoureux. Et de ses relations avec elle, naît un enfant qui meurt presque aussitôt, le 15 août 1652. Et cette liaison, mais ça provoque évidemment les médisances, et beaucoup des amis de Rembrandt qui le pensaient un chrétien exemplaire cessent de le fréquenter. De plus, les autorités ecclésiastiques protestantes excluent sa maîtresse de la table eucharistique le 23 juin 1654. Mais ceci n'intimide ni Rembrandt ni la jeune fille. Il s'aime. Mais il ne peut pas se remarier parce qu'il a besoin de l'argent qu'appartient à son fils et dont il utilise les profits. Hein. Alors ils ont un autre enfant, une fille qui naît le 30 octobre 1654. Rembrandt l'appelle Cornelia, du nom de sa propre mère. Et peut-être aurait-il épousé sa maîtresse sans ce grave désastre financier dont je vous ai parlé un peu au début, quand je vous ai résumé sa vie, qui le frappe alors et sa maison, achetée en 1639, n'est payée qu'en partie. Rembrandt doit encore plus de 8000 florins, auxquels s'ajoute une autre dette de plus de 9000 florins. C'est la faillite inévitable et le peintre est déclaré insolvable. Tous ses biens sont impitoyablement vendus. Il perd tout. Il devient extrêmement pauvre. Tout est saisi, même les tableaux en cours d'exécution. Personne n'aide Rembrandt. L'hostilité intransigeante des pasteurs protestants fait le vide autour du peintre. Ses amis en souffrent, mais ils ne réagissent pas. Ils ont peur. Seule, sa maîtresse reste à ses côtés. Cette femme simple, mais courageuse, a su faire face avec énergie à sa nouvelle situation. Et tout en s'occupant de la maison, elle est une mère affectueuse pour les deux enfants. Elle sert de modèle au peintre. Elle s'improvise même le marchand de Rembrandt. Mais le 27 octobre 1662, le peintre doit même vendre le caveau de sa famille. Et nous verrons comment ce pauvre homme et cette jeune femme vont terminer leur jour. Rembrandt était un dessinateur exceptionnel. Sa maîtrise des techniques de gravure a fait de lui l'un des meilleurs aquafortistes de tous les temps, avec Dürer et Franz Hals. Curieusement, ce sont ses eaux fortes qui ont consacré sa réputation de spécialiste de l'art sacré. Il a obtenu un véritable succès comme graveur de scènes bibliques ou évangéliques. Ses eaux fortes de son vivant et ses pointes sèches ont atteint des prix très élevés, comme cette extraordinaire gravure dont je vous ai parlé déjà, Jésus guérissant les malades, qu'on appelle l'estampe des 100 florins parce qu'elle a été payée ce prix-là. On gravait, c'est sûr, des eaux fortes avant Rembrandt, et surtout en Italie. Mais c'est lui, Rembrandt, qui a fait de ce procédé un moyen d'expression artistique complet et autonome. Et au travers des gravures qu'il a exécutées après 1640, naît une tradition qui va aller jusqu'à Goya. C'est d'ailleurs entre 1640 et 1650 que Rembrandt réalise les plus belles. Et jusqu'en 1640, ses eaux-fortes ne sont à peu près que des reproductions de ses tableaux. Mais après cette date, il grave des œuvres aux thèmes originaux qui tire une force d'expression poétique extraordinaire dans des oppositions de blanc et de noir, des lumières et des ombres. Et en utilisant à la fois l'eau forte et la pointe sèche, il atteint même un sommet. Avec des œuvres comme les trois arbres ou le Faust, pourtant si différentes l'une de l'autre. Avec ce goût inné pour le pittoresque, qu'alimentait en permanence le spectacle coloré de la vie quotidienne dans le vieux quartier juif d'Amsterdam, eh bien Rembrandt assimile curieusement les personnages de l'Antiquité à ceux de la Bible. C'est tout ça avec une sorte de tendresse et de vénération qu'il peint la vieillesse, sujet pour lequel il a éprouvé toujours une grande attraction. Il imaginait poète et philosophe de l'Antiquité à l'image des prophètes, des patriarches et des rois bibliques. Et son extraordinaire dessin, rehaussé d'aquarelle, qui représente Homère aveugle dictant ses vers, rappelle irrésistiblement le patriarche de l'eau-forte intitulé Abraham recevant la visite des anges. Demain, l'émission sera consacrée à Abraham, justement, et à sa femme Sarah. Son Ponce Pilate ressemble davantage à une espèce de satrape d'Orient qu'à un proconsul romain. Rembrandt est rebelle. Il est rebelle à toute interprétation conventionnelle. Il se fait à son imagination, à son intuition artistique. dans le magnifique portrait allégorique Aristote contemplant la statue d'Homère, que tu vendes extrêmement cher, eh bien, ce même buste reflète un caractère profondément méditatif. Ce tableau avait été commandé à Rembrandt par un amateur italien, le prince Ruffo di Messina, ce qui prouve, contrairement à ce que l'on a souvent avancé, que l'art de Rembrandt était apprécié à l'étranger. En réunissant Homère et Aristote, Rembrandt présentait poésie et connaissance comme les deux pôles de la dignité de l'homme. Savoir être un peu poète, ça permet d'assister à une messe avec beaucoup plus d'élan et beaucoup plus de profondeur, car ça nous permet de savourer les textes de la messe. Si vous y allez aujourd'hui, vous pourrez savourer le psaume « Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité ». J'espère que Rembrandt a été conduit sur le chemin d'éternité malgré tout. En 1668, son fils Titus épouse Magdalena van Loo et il quitte la maison paternelle, mais il meurt un mois après son mariage. C'est un nouveau deuil particulièrement douloureux pour Rembrandt, qui aimait tendrement son fils, le seul des enfants de Saskia qui ait survécu jusque-là. Après la mort de Titus, Magdalena aura une fille qui est née l'année suivante, en 1669. Elle l'appellera Titia, en souvenir du disparu, qui s'appelait Titus. Mais Magdalena va mourir elle-même le 21 octobre. C'est terrible, hein? Le 30 mai 1670, Cornelia van Rinsch, la fille de sa maîtresse, se mariera à son tour avec le peintre Cornelius Suitoff. Et en 1673, à Batavia, dans les Indes hollandaises, elle va mettre au monde un fils à qui elle va donner le glorieux prénom de son grand-père, Rembrandt. C'est près de Cornelia que Rembrandt va passer les derniers jours de sa vie, dans la maison qui est, dans une maison où il meurt le 4 octobre 1669. Sa dépouille mortelle, je vous l'ai dit au début de l'émission, a été ensevelie le 8 octobre, c'est pourquoi je rends hommage à Rembrandt malgré tout. Un inventaire dressé après sa mort nous montre bien dans quelle pauvreté il vivait. Il était presque totalement oublié. Ses biens se réduisaient à quoi? 19 tableaux, dont certains inachevés, un peu de meubles et de linge. Dans la meilleure chambre, il y avait un lit avec une paillasse, 5 coussins, 2 traversins, 6 courtines et une couverture de soie, 4 rideaux verts, 1 guéridon de chêne recouvert d'un tapis, 1 miroir, 1 chaise, 1 plaque de cheminée en fer. C'est le cadre d'une misère qui refuse de s'avouer, un petit peu de vernis sur sa pauvreté. Et ainsi s'est achevée la vie d'un homme de génie, qui était coupable, certes, de bien des erreurs. Je ne vous ai pas raconté la vie d'un saint aujourd'hui, non, mais la vie d'un chrétien profond quand même. On avait commis bien des erreurs à son égard. On, c'est-à-dire tous ceux qui, après l'avoir porté au nu, se sont effrayés quand ils l'ont vu en butte aux créanciers, surtout aux censeurs puritains. Ils l'ont abandonné lâchement. Mais Rembrandt, si seul et si constamment frappé dans ses affections, a su trouver dans le chagrin et la solitude la force et la volonté d'atteindre les sommets de son génie. Quand je vois la fin de cet homme, je pense à Jésus qui s'approche de la femme adultère et qui dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. C'était un homme profondément spirituel. Il avait une foi exigeante. C'était un grand poète. C'était un grand chrétien et un pauvre pécheur. Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte. Il a trouvé son bonheur et sa joie. C'est l'Alléluia d'aujourd'hui. et l'ancienne ouverture est si belle, sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton Saint-Nom. Nous te bénirons dans la joie.